Bien, bonsoir à tous. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu un petit changement de programme impromptu. Patrick Hennig, qui devait parler aujourd'hui, a été appelé d'urgence en Syrie pour son travail. Et Tofik Akhlimendos nous a fait le grand plaisir d'accepter de parler sur ce créneau à la place de Patrick Hennig. Un petit peu comme ça au débotté, et je l'en remercie vivement parce que il nous semblait important que vous puissiez avoir quelques lumières sur ce sujet, à savoir la question de la politique et en particulier de l'islam politique en Égypte 2 ans après le printemps arabe. Alors Tofik Akhlimendos a consacré une thèse d'État au rôle des officiers en Égypte. Il travaille également beaucoup sur les frères musulmans. Il est actuellement chercheur associé au Collège de France. Et il va donc évoquer comme ça, de manière un peu impromptue dans la formulation, parce que sur le fond, c'est un éminent spécialiste de l'Égypte contemporaine et de ses questions. Eh bien, le devenir de cette révolution égyptienne et en particulier la question du rôle de l'islam. Tofik, je vous cède la parole.
J'ai apprécié sur un bouton.
Non, c'est normalement.
Bon, pardon. Alors, je vous dis merci beaucoup. Alors que je vous taquine un peu, une plaisanterie de mauvais goût, mais j'ai enfin un point commun avec le président Morsi. Je suis une bonne solution de rechange. Ça favorisera peut-être la communication. Non, je suis vraiment très heureux d'être ici. J'avais besoin de mettre un peu en ordre, je ne peux pas dire mes idées, mais le peu que je sais sur ce pays. À l'heure actuelle, il est absolument impossible de se faire une idée précise. Alors, il faut prendre ce que je dis pour... il ne faut pas le prendre pour argent comptant, tout à fait. Il y a un peu trop d'acteurs. La plupart sont de nouveaux acteurs. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, on ne sait pas comment ils comprennent ce que les autres disent, on ne sait pas quels sont leurs plans, etc., s'ils en ont, etc., etc. Donc on est un peu dans le noir. Après, il y a quand même quelques lignes maîtresses qu'on peut observer, et aussi on peut un peu plus préciser quels sont nos inconnus. Ce qui se passe, je vais essentiellement parler des deux principales forces politiques, les deux seules forces organisées, c'est-à-dire les frères musulmans et l'armée, et de leur interaction. Je parlerai aussi probablement des salafistes, parce qu'ils sont un élément important. Et si j'ai le temps, je parlerai et des partis non islamistes et de la jeunesse révolutionnaire. J'espère ne pas avoir le temps, parce que ce n'est pas exactement deux sujets que je connais très bien. Alors je ferai un petit point rapide sur cela. Et effectivement, je donnerai aussi une conclusion sur, je dirais, où en est la transition démocratique. Alors, en un mot, elle est morte et enterrée pour le moment. Où en est la révolution? Elle est en train de, comment vous dire, on est plutôt dans un creux de la vague, mais ça peut repartir n'importe quel moment. Les passions révolutionnaires sont là, les causes de mécontentement sont là, et disons, je dirais que la révolution est devenue une pratique sociale que de nombreuses couches peuvent apprendre ou ont appris à maîtriser. Alors, il est vrai que pour le moment, la situation est légèrement plus calme. Donc, on va donner au jeu politique, au sens de microcosme du terme, un peu son droit avant de parler d'autres choses. Il faut voir aussi que quand on parle des frères musulmans et de l'armée, on a affaire à deux organisations, ou à deux institutions, ou à deux forces qui ne brillent pas exactement par leur transparence. Ce sont des forces très secrètes, dont l'une a été clandestine très longtemps. Et pour expliquer les frères, pour parler des frères, nous sommes réduits à faire des hypothèses. Alors, chaque chercheur a ou est censé avoir son schéma hypothético-déductif de qu'est-ce que c'est que cette formation, comment elle fonctionne, comment elle peut évoluer. Et après, ce que vous dites est soit confirmé par l'expérience, soit il ne l'est pas. Alors, en théorie, quand un schéma n'est pas confirmé par l'expérience, vous finissez par l'abandonner. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et il y a une raison pour ne pas seulement dire que les chercheurs sont capricieux, etc., etc. Il y a une raison, c'est que le court terme est une chose, le moyen terme en est une seconde, et le long terme en est une troisième. Un exemple bête, si vous lisez Tocqueville pendant la guerre de sécession, ce qu'il raconte n'a pas l'air d'avoir grand sens. Aujourd'hui, c'est un classique, un peu avant, c'est un classique. Donc, à l'heure actuelle, je considère que mes propres schémas, je parle des frères là, sont confirmés par ce qui se passe, mais dans 10 ans, je peux avoir, on pourrait dire que j'ai eu tout faux. On n'en sait rien. Idem. Et l'autre truc très troublant, avant d'entrer dans le détail, et il faudra un jour que je réfléchisse dessus, finalement, dans ma vie, j'ai dû parler, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais j'ai dû parler qu'à 10 frères. Sur la confrérie, je ne me suis pratiquement jamais trompé jusqu'à maintenant. J'ai dû parler à 2000 officiers de l'armée, je me suis tout le temps trompé sur l'armée. Alors c'est un cas d'arbre cachant la forêt, je pense, ou de forêt, je ne sais pas exactement. Mais c'est un truc qui me trouble beaucoup. Je ne peux pas dire que je suis tout le temps trompé sur l'armée, je suis très souvent trompé sur l'armée. Est-ce que le facteur humain ou la connaissance des acteurs vous permet de mieux voir les structures ou pas, ou est-ce que ou vous empêche de voir les structures? C'est une question technique que je n'aborderai pas ici. Je vais passer aux frères. Les frères, c'est la seule force organisée du pays. On ne sait pas exactement c'est combien de militants. Alors, il faut voir que les chiffres les plus farfelus circulent, enfin, les plus divers circulent. Et ceci, pour moi, s'explique d'une manière, outre le secret, d'une manière simple, c'est qu'il y a 4 degrés de membership. C'est un peu structuré comme une confrérie religieuse. Il y a 4 degrés de membership et les 2 premiers ne sont pas considérés par la confrérie comme des membres, les 2 les plus bas de l'échelle. C'est-à-dire, grosso modo, les amis et les montaseb. Et puis, vous devenez odd, et puis, je ne sais pas, il y a un autre terme, un gros. Mais les 2 premiers échelons ne sont pas considérés par la confrérie comme des membres. Alors, quand la confrérie vous dit, ça, elle peut s'en mentir, il faut dire très bien, à un moment donné, nous sommes juste 860 000 personnes, ça, c'est les 2 échelons d'en haut. Comme elle peut vous dire, nous sommes à peu près 2,8 millions, c'est tout, ensemble. Après, il y a en ville, certains frères ont le blues, ou font ça, je parle d'aujourd'hui, ou font semblant d'avoir le blues et disent que beaucoup de jeunes quittent la confrérie. Je ne suis pas sûr que ce soit exact, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas. Mais ils disent ceci. Je n'y crois pas trop. Ils aiment bien paraître pour plus faibles qu'ils ne sont, mais en même temps, il y a aussi d'énormes problèmes en interne, dont peut-être je parlerai si j'ai le temps. Ça, c'est pour décrire les frères, moi, mon schéma, c'est une organisation double, au sens, c'est d'abord un mouvement de masse qui peut accueillir, entre guillemets, je les cite, et puis je dis pourquoi ce n'est pas tout à fait exact, ce que l'islam peut accueillir. Alors, accueillir ce que l'islam peut accueillir dans leur sens, c'est-à-dire tout musulman observant les préceptes de la morale religieuse musulmane, se comportant de manière acceptable, c'est-à-dire, il ne boit pas d'alcool, respecte le jeûne, etc., etc. Et là, ça vous donne, ça c'est un mouvement de masse où il y a ça. Mais ça vous donne des gens très différents. Vous pouvez avoir des salafistes, vous pouvez avoir des libéraux, ou des gens relativement libéraux, vous pouvez avoir des gens très modernes, des gens très anti-modernes, sans avoir, ça vous donne toute une palette, vous pouvez avoir des soufis, vous pouvez avoir des gens qui veulent casser du soufi, ça vous donne toute une palette d'attitudes au sein du mouvement de masse. Mais c'est aussi un appareil clandestin léniniste qui est fermement tenu par les Côte-Biens. Alors, je vais dire rapidement, c'est quoi? Par la branche la plus radicale. Et cet appareil, on ne le comprend pas si on n'a pas à l'esprit, par exemple, ce que Alain Besançon pouvait raconter sur le parti léniniste. C'est un parti léniniste tel qu'il a pu être décrit par Alain Besançon, Martin Malia ou François Furet. Et obsédé par la prise de pouvoir, se préparant depuis 80 ans à celle-ci, pratiquant la clandestinité, à la fois avec un rapport très particulier à l'idéologie, c'est-à-dire qu'il est très fermement convaincu par une version très appauvrie de l'idéologie. C'est-à-dire, c'est un peu comme le Djamat par rapport à Marx, c'est pas tout à fait la même chose. Et le côte-bisme, alors ça me permet de démarrer, Saïd Aude est un penseur qui vient du camp libéral mais qui a cessé de l'être et qui a pondu une sorte de théologie de l'histoire qui peut se décrire ainsi. Dieu a créé la race humaine, donc il la connaît mieux que nous, et connaissant la race humaine, il l'a privée du droit à légiférer. Et il l'a pourvue d'une loi. Et toute l'histoire humaine est la lutte entre ceux qui veulent respecter la souveraineté de Dieu et donc appliquer la loi divine, et ceux qui essayent de tricher pour leur intérêt personnel et qui se prétendent ou inventent des fictions pour croire, pour s'autoconvaincre que l'homme a le droit de légiférer, de choisir lui-même sa propre loi. Et pour lui, le mal a gagné les sociétés musulmanes ou soi-disant musulmanes, et les sociétés musulmanes d'aujourd'hui, il écrivait en 65, il ciblait essentiellement Nasser, le Bahs et des choses du genre, ce sont des sociétés qui sont retournées à l'ère jahilite, c'est-à-dire d'abord elles ne sont plus musulmanes, et c'est plus grave, elles sont plus musulmanes, elles sont quasi apostates, même s'ils n'emploient pas toujours le mot, et elles sont retournées à un état d'ignorance et de perdition pré-islamique, c'est-à-dire c'est comme si la révélation n'avait jamais eu lieu. Et il faut qu'il y ait une avant-garde. Il faut qu'il y ait une avant-garde qui s'isole, se prépare et revienne accomplir l'utopie et rétablir la loi de Dieu. Alors, pour ne pas quand même trop forcer le trait, parce que ce qui est mon penchant mignon, surtout en conférence, il faut bien voir que ce schéma n'a pas tout à fait le statut que celui de Marx a dans les partis communistes. C'est-à-dire que très vite, Saïd Oud n'est pas le fondeur des frères. Il arrive bien après. Il entre chez les frères après la mort du fondateur. Et donc, il y a très vite un tas de gens au sein de la confrérie qui n'ont pas du tout aimé cette histoire. Donc, Oud a été très longtemps contesté par plusieurs cadres importants. Alors, ces cadres ont fini par être petit à petit marginalisés. Il n'y a pas d'erreur. Ensuite, quand vous lisez Oud, alors à la fois, on peut vous montrer qu'on peut le lire de différentes manières. Enfin, c'est ambigu, c'est-à-dire tous les frères se réclameront de lui, mais certains en vous disant « il a dit ce que je viens de décrire », et d'autres vous disant « non, c'est pas tout à fait ça ce qu'il a dit ». En fait, on essaie d'atténuer, de décodepiser Kod en disant qu'en fait, il faut pas souveraineté de Dieu, ça ne veut pas dire souveraineté, ça veut dire autre chose, ou que quand on dit que c'est Gahéléa, le terme est trop fort, mais le pauvre, il avait été torturé, donc il voulait dire autre chose. Il y a un tas de tentes. Mais alors, on peut voir que beaucoup de frères essayent de décodebiser Kod, et on peut voir l'autre aspect du problème, c'est que personne n'ose dire qu'il faut le jeter à la poubelle. On dit que Kod est la référence. Après, on essaie de lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire. Pour moi, il est très clair que la version dure est la version de ce qu'il a voulu dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lui ? Alors, ce que j'appelais la version pauvre, c'est-à-dire quand même, excusez-moi, je fonctionne par analogie. Vous avez, si vous êtes en France et que vous pensez qu'il y a des rapports d'exploitation intolérables dans la société française, ça ne fait pas de vous un marxiste, forcément. Alors, tous les frères musulmans ont ceci en commun, que la société égyptienne n'est pas une société tout à fait musulmane. Ou elle n'est pas assez musulmane, il y a ce truc que son islam est déficient. Et qu'il faut pratiquement forcer ou inciter, ça dépend aussi des écoles, les gens à adorer correctement Dieu, ce qu'ils ne font pas. Ça, c'est grosso modo l'idéologie frère. Alors, on ne sait pas exactement quel est le rôle qu'elle a joué dans la Révolution, je crois qu'on peut dire grosso modo que c'est pas elle qui a déclenché la Révolution, la confrérie, je veux dire, deux, qu'elle a joué un rôle essentiel dans son succès, et trois, qu'elle a aidé, son attitude a été assez vite de désamorcer la bombe révolutionnaire avec le Conseil supérieur des forces armées, peut-être que j'y reviendrai d'une autre manière, en jouant la transition démocratique ou la transition électorale. C'est-à-dire l'armée a eu, au lendemain de la révolution, une idée absolument géniale au niveau contre-révolutionnaire, c'est d'organiser des élections libres. Organiser des élections libres, c'est un passage à la démocratie, mais c'est un passage à la démocratie contre la révolution. Alors, je m'explique, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Une révolution, ce sont des avant-gardes. La démocratie, c'est quand même plutôt la loi de la majorité. Une démocratie, c'est des mécanismes de représentation. Une révolution, notamment au moins celle d'Égypte, c'est une révolution où les gens ne veulent pas être représentés, ils veulent être présents. Ils ne font plus confiance à aucun des mécanismes des représentants. Donc, quand ils ont un problème, ils descendent dans la rue. Donc, c'est présent contre représentation. Avant-garde contre majorité. Et évidemment, représentation, c'est aussi une manière de dire aux gens de rentrer chez eux. Il faut avoir ça à l'esprit. Je suis tout à fait pour la démocratie, mais il faut de temps en temps voir qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement dans un tel contexte. Et c'est donner aussi une voix importante à une population rurale supposée, parce que la chose est évidemment beaucoup plus compliquée, supposée amorphe, passive, le fellah, défenseur du prince, etc., etc. Alors tout ceci, ils ont donc joué la transition, le jeu électoral, pour emporter les élections. Ils sont arrivés au pouvoir. Alors je passe sur comment ça s'est passé, parce que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, on a un nouveau pouvoir frère, et je veux essayer d'en parler un peu. Alors, avant d'en dire beaucoup de mal, pardon, c'est un truc que j'aurais dû commencer, il faut voir que les frères musulmans, il y a beaucoup de gens remarquables là-dedans. C'est-à-dire, ce sont des gens, il faut voir un peu le profil, parce que je vais en dire beaucoup de mal, donc je vais quand même dire quelque chose de bien au milieu. Ce sont des gens qui ont accepté, par exemple, pour ceux qui ont mon âge, à 20 ans, d'entrer dans une confrérie où ils allaient payer 10% de leur salaire, obéir aveuglément sans discuter, n'avoir aucune carrière professionnelle et être régulièrement mis en prison pour des ordres ou des choses dans lesquelles ils n'étaient pas au courant encore. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des gens qui ont fait un énorme sacrifice. Sauf que là, maintenant, on est au moment où on passe à la caisse. Il y a aussi ça. C'est le moment où on arrive. Ce sont des gens très, très bien, par beaucoup de côtés. Bon, ce ne sont pas de penseurs, et je vais en dire beaucoup de mal à toutes sortes de moments. Ce sont des gens très, très bien. Sauf que ce n'est pas parce qu'il y avait des militants communistes extraordinaires dans les années 30 que je devais trouver le stalinisme un modèle sympathique. Là, pour moi, le projet frère, vous l'aurez compris, et j'assume, est un projet profondément maléfique. Et je m'expliquerai pourquoi. Je parle bien du projet frère. Je ne parle pas de l'islam politique. Je ne parle pas du salafisme. Je ne parle pas, d'ailleurs, des frères tunisiens que je ne connais pas ou d'autres. Je parle des frères égyptiens. J'ajoute, puisque je parle des frères égyptiens, bon, après on pourra parler des autres, il y a aussi un truc qu'il faut bien voir, pour les frères égyptiens, M. Ranouchi, c'est un curé de province, Erdogan, qui n'est pas frère, donc je ne fais pas dans le gamme, c'est notre curé de province, il peut raconter ce qu'il veut, il peut faire exactement ce qu'il veut, eux c'est le pape, un pape ne peut pas raconter ce qu'il veut, il est le gardien du dogme. Il y a aussi ça, pour montrer que c'est aussi une confrérie qui est beaucoup plus rigide qu'on le dit. Bon, donc j'ai passé... Qui prend les décisions dans ce nouveau pouvoir? Alors, je cite Patrick... J'ai oublié de dire merci à tous ceux à qui j'ai pu parler, mais enfin, là, je cite Patrick Henry rapidement, qui m'a dit que Hassam El-Aryan... Hassam El-Aryan, c'est le cadre frère qu'on montre aux Occidentaux parce qu'il sait parler démocratique, mais il n'a aucun poids dans les prises de décision. Lui a dit que 80% des décisions prises par la présidence étaient prises au bureau de guidance. Le bureau de guidance, c'est l'instance suprême des frères musulmans. Alors, parlons un peu de ce bureau de guidance, c'est le sommet tout à fait. Il y a entre, j'ai cessé de compter, mais il y a entre 15 et 18 membres en fonction des moments. En théorie, ils sont à égalité. En pratique, il y a 5 membres plus égaux que les autres. Et... un membre plus égal que tous les autres, c'est-à-dire Khayrat Shotter. Khayrat Shotter, c'est le vice-guide, mais Khayrat Shotter est le ministre des Finances de l'organisation, le ministre de l'Intérieur de l'organisation. Il a tous les dossiers des membres chez lui. C'est lui qui fait la police de la pensée, je dirais. Il est donc, il a l'argent, il a les dossiers, c'est lui qui mène les négociations avec les autres interlocuteurs, et c'est lui le stratège. À part ça, il n'est pas important. Mais voilà. Ça, c'est Khayrat Shotr. Il avait avec lui quatre autres, en fait. Badir, qui est le guide suprême, qui, avant de devenir guide suprême, était en charge de l'idéologie ou des programmes éducatifs, qui est un monsieur à la fois très dur doctrinalement, c'est-à-dire code bien, extrêmement courtois avec tous ses interlocuteurs, y compris ceux qu'il a envie de tuer. Je ne sais pas qui il a envie de tuer, donc je ne suis pas en train de dire, mais c'est un monsieur qui a toujours veillé à respecter les règles de la politesse, de la courtoisie, de la décence dans ses interactions personnelles. Et contrairement aux autres patrons des frères, n'a jamais mis les mains au cambouis, question finance ou question coup fourré. C'est pour ça qu'il est aussi très respecté au milieu de la confrérie. Mais il n'a pas le poids de Khayrat Shotr. Donc ça nous fait un autre. Roselyne, c'est le porte-parole, il faudrait plutôt dire le porte-silence, puisqu'en jeu, il parle peu. On met à la place d'autres personnes. Roselyne, c'est le beau-frère de Khayrat Shotr, c'est aussi un autre des types qui ont les mains dans le cambouis, ça nous fait trois. L'autre, le quatrième, enfin le cinquième, c'était Morsi, et le quatrième, c'est Mahmoud Aizat. Mahmoud Aizat étant le genre de cadre stalinien, enfin tout à fait théocrate, convaincu, obtus. On peut dire de lui beaucoup de choses, mais il n'est pas obtus. Mais vous voyez un peu le profil. J'ai oublié de dire que Khair Teixeira vient des rangs de la gauche nassérienne, c'est un autre transfuge, ce qui fait au moins qu'il a eu accès à deux univers culturels plus ou moins différents. Ce n'est pas le cas des autres. Ça, c'est la version Patrick Henry, donc c'est le bureau de guidance qui prend les décisions. Qu'est-ce que je voulais dire ? Un des aides du président de la République, Samir Moros, disait autre chose, c'est que dans son impression, ça avait changé. Morsi avait eu, à un moment donné, après son élection, une marge de manœuvre, et qu'il l'a perdue. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, pour M. Moros, ceux qui prennent les décisions sont Khair Teixeira et 10 aides du président Morsi qui viennent des Frères musulmans, mais de l'Organisation internationale des Frères musulmans, qui ne sont pas membres du bureau de guidance. Ce sont 10 personnes qui sont membres de la sorte de Comintern ou d'International Socialiste. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Des frères, qui sont donc des frères égyptiens, mais qui ont vécu à l'étranger, qui ne connaissent pas le pays, et qui sont revenus pour conseiller, encadrer, surveiller Morsi pour le compte de Khair Teixeira. Et que là, Mohamed Morsi n'a plus beaucoup d'autonomie. Quand je dis qu'il a été Kotbien, des gens peuvent m'objecter que beaucoup de chercheurs qui la connaissent mieux que moi disent qu'elle est très salafisée. Et que c'est une formation qui est de plus en plus salafiste. L'un n'empêche pas l'autre. Je m'explique. Le salafisme est une posture qui gagne et qui progresse énormément. Alors, qu'est-ce que c'est que le salafisme ? Les gens savent ou je dois m'expliquer ? Non, bon. Alors, le salafisme, c'est une école de pensée qui est très répandue d'abord, et puis petit à petit s'est rétrécie, qui consiste à penser que les personnes qui ont le mieux compris le message divin, c'est le prophète, ses compagnons et les premiers successeurs, les trois premières générations de croyants. Et que tout ce qui est arrivé après cela en islam a consisté à dénaturer ou à altérer ou à salir le message divin. Et qu'il faut, si la Ummah veut recouvrir sa puissance, les moyens de bien vivre, il faut qu'elle retrouve le sens pur de l'islam avant qu'il ne soit altéré. Dit comme ça, je parle de la salafie historiquement, mais dit comme ça, encore une fois, ça peut être, ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous mettez dans le sens originel du message divin. Le grand réformateur Mohamed Abdo expliquait par exemple que le sens originel de l'islam, c'était une religion rationaliste et ouverte aux apports d'autrui. Donc pour lui, la salafie, c'est de devenir rationaliste et ouvert aux apports d'autrui. Ce n'est pas le cas des salafistes d'aujourd'hui. Les salafistes d'aujourd'hui, l'apport d'autrui doit être l'objet de méfiance. Et puis, ils ont un rapport littéraliste au texte du Coran. C'est-à-dire que par exemple, une chose qu'ils reprochent à Qutb, c'est que Qutb a dit quelque part que la main de Dieu, c'est une métaphore. Il dit, comme tu n'as pas vu Dieu, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas le droit de parler. De te prononcer, savoir si c'est une métaphore ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une métaphore. Et il y a aussi un très gros travail, alors ça c'est plus dans les histoires de doctrine musulmane, sur les hadiths. Donc ceci donne une école qui, on peut dire, est très rigoriste, extrêmement centrée sur la restauration d'une communauté originelle imaginée qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle a pu être, vu les travaux des historiens qu'on mène. Mais tout à fait imaginé, dans une purification permanente et de soi et de la communauté. Après, il y a beaucoup de différences entre les salafistes. Ce que je veux dire, c'est que Qutb, c'est une lecture de l'histoire. Qutb, c'est du sous Hegel. Vous pouvez être salafiste et Qutbien en même temps. La plupart des salafistes, hors frères, n'aiment pas Qutb, parce que Qutb a écrit un livre qui est un commentaire du Coran qui est plein d'âneries théologiques impressionnantes. Mais les frères s'en sortent en général en disant qu'il ne faut pas le considérer comme un texte théologique, mais comme un essai littéraire. Et ça, le tour est joué. Mais vous pouvez tout à fait être salafiste et qutbien. J'y reviendrai parce que, pour moi, un des éléments de la communication frère a été d'avoir réussi à vendre aux puissances occidentales qu'ils, eux, n'étaient pas salafistes et que c'est un mensonge assez conséquent. Quoi. Bon. Alors, il y a deux manières de lire ce que les frères ont fait. Après, je vais peut-être détailler. Ce que les frères ont fait depuis l'arrivée au pouvoir, c'est en gros essayer de prendre le contrôle de tout. La transition démocratique, ce n'est pas leur truc. C'est les élections. Ils se comportent, pour le moment, comme si les élections... le fait d'avoir gagné les élections leur donnait tous les droits et le droit de tout contrôler. Et donc, ils ont un très grand dessein que leurs adversaires résument sous le sens du mot Tamkin, qui vient d'eux d'ailleurs. Tamkin, ça vient d'un verset coranique qui explique qu'un jour Dieu donnera les pleins pouvoirs aux vrais croyants ou aux croyances. Alors, le vrai vient d'eux. Et donc là, on est dans ce moment du Tamkin, où le moment de prendre les pleins pouvoirs pour accomplir la mission telle que décrite par Dieu est là. Et le Tamkin permet à leurs adversaires de dire que c'est une formation très idéologique, mais il y a aussi un élément qu'on ne voit pas, c'est que la base est très pro-Tamkin, pour une raison extrêmement simple. Elle a souffert pendant, mettons, 50 ans, 70, 80, ça dépend de qui. Et là, pourquoi partager avec des gens qui s'étaient accommodés de Moubarak? Pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a à prendre? C'est-à-dire, il y a une conjonction d'intérêts matériels très légitimes, sauf qu'ils ne sont pas forcément sages politiquement, de gens qui ont vraiment vu leur carrière détruite, etc., etc., et qui veulent se rattraper. Et en plus, ils se rattrapent pour défendre Dieu, hein, pour défendre la religion. C'est même pas qu'ils se rattrapent par intérêt. Et du grand plan du Tamkin. Alors, ce plan a pris plusieurs manières. Alors, l'ikhwanisation. Alors, l'ikhwanisation, c'est-à-dire que vous nommez des frères à peu près à tous les postes clés possibles et imaginables au sein de l'administration d'État, des syndicats, des entreprises, secteur public. Alors, il y a des domaines où elle est très avancée, c'est-à-dire les WACF, ça a été le premier, mais vous avez aussi l'approvisionnement, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils ont commencé, pour aller très vite, sur les ministères, le ministère du pétrole, plus les ministères rendant des services à la population, les ministères de prestations. Ce qui leur permet, par exemple, l'approvisionnement, etc., etc., de se constituer des clientèles qu'ils n'avaient pas. Donc, il y avait donc l'ikhwanisation. J'y reviendrai après. Alors, le parti salafiste a publié une liste de 13 000 frères ayant été nommés à des postes de hauts fonctionnaires, etc., etc., depuis la prise de pouvoir de Morsi. Et donc, de gens qui ne venaient pas de l'appareil gouvernemental. Alors, juste en passant, au cas où j'oublie de vous dire, cette liste, ce n'est pas le parti de Nour qui l'a préparée, c'est la DRM, ce qui vous donne aussi des signes de qui travaille avec qui. Il y a ça. Il y a aussi, alors là, on en est un peu au procès d'intention, sauf que les procès d'intention se fondent sur des phrases frères, la création d'institutions parallèles. Bon, il semble bien qu'ils ont au moins quelques institutions, il y a quelques institutions étatiques qu'ils veulent supplanter et qu'ils veulent remplacer par d'autres. Alors, pour le moment, c'est un processus tout à fait embryonnaire. Mais on a des phrases, c'est-à-dire... certains frères en ont parlé à certains diplomates étrangers, donc on sait que ça a été dit. Donc, ce n'est pas un truc tout à fait inventé. Alors, évidemment, les institutions qui sont les plus menacées sont la police et la justice. Et j'y reviendrai, ou j'y viens tout de suite. Et la justice, ça, c'est vraiment le truc où je suis assez exaspéré à chaque fois qu'on m'en parle, parce qu'il y a une entreprise systématique de destruction de l'état de droit qui a réussi à un moment donné, je crois qu'ils sont allés trop loin, à se faire vendre comme une nécessité de purifier ou de purger une justice profondément corrompue. La justice égyptienne était profondément corrompue, sauf que c'était une justice légale rationnelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je donne quelques étapes. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Morsi a reconvoqué le Parlement qui avait été dissous par la Haute Cour constitutionnelle. Et je peux en parler pendant des heures, je vais vite, croyez-moi sur parole. Le jugement de la Haute Cour constitutionnelle était, un, juridiquement fondé, et deux, était attendu. Tout le monde savait que c'est comme ça qu'elle allait le faire. Dès que la loi a été sortie, dès que la loi a été publiée, tout le monde a dit « cette loi va être cassée par la Haute Cour constitutionnelle ». Alors, je ne vous dis pas que la Haute Cour constitutionnelle n'aurait pas pu aller plus lentement, etc., qu'elle ne s'est pas fait plaisir, mais le jugement n'est pas attaquable juridiquement. C'est-à-dire, au sens, ce n'est pas parce que c'est la Haute Cour constitutionnelle, mais l'argumentation, on la connaissait, on savait qu'elle allait être utilisée, et elle est tombée. Donc, ce qui était une manière de défier la Haute Cour haute cour constitutionnelle. Bon, il a dû s'incliner là-dessus. Je dirais après pourquoi il s'est... Puis il a démis le procureur de la République. Alors le procureur de la République est un monsieur qui n'est pas extrêmement... qui est l'ancien, qui n'était pas extrêmement sympathique, sauf qu'en Égypte, c'était un des rares à qui de l'état de droit, le pouvoir exécutif ne peut pas démettre le procureur de la République. Et là, c'était une constitution, c'était resté comme ça. En plus, il y a une procédure pour démettre le dire procureur, et s'ils avaient pris leur temps, ils auraient pu la suivre. Et ils ont nommé un procureur de la République qui leur est complètement servile. On peut même se demander s'il ne fait pas partie de la confrérie. Donc il y a eu ça. Ils ont décapité la haute cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont mis à la porte 7 juges sur 17, que si vous parlez aux autres à 10, ils ne peuvent pas travailler. Ça écroule sous le travail. Déjà à 17, la pression, la quantité de travail à battre était importante. À 10, ils ne peuvent pas travailler. Et évidemment, il y a eu une déclaration constitutionnelle de Morsi qui a consisté à se mettre au-dessus de l'état de droit. Donc il y a donc une destruction de l'état de droit. Et il y a, j'ai parlé donc d'ichwanisation, c'est-à-dire occupation de l'appareil d'État, création d'institutions parallèles. Je vais garder deux autres étapes du grand dessin pour après, parce que c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est quand eux, ça j'ai parlé comme critique, quand eux veulent expliquer ce qu'ils font à des chercheurs de confiance, qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors, voilà ce qu'ils vous racontent. C'est grosso modo l'opposition non-islamiste, c'est-à-dire Baradaï, Hamdine, Sabahi, ce monde. Ils n'ont pas de parti. Qu'est-ce qu'ils appellent « ils n'ont pas de parti » ? C'est-à-dire que s'ils lancent un appel à manifester, ils n'ont aucun moyen de savoir au début s'il va y avoir 10 000 manifestants ou 1 million. Ils ne peuvent pas savoir. Tandis que les frères, s'ils veulent 6 002 manifestants, ils auront 6 002. S'ils veulent 65 225, ils auront 65 225. C'est très... Les autres, on ne sait pas. Plus grave, c'est si par hasard, ils ont réussi à mettre 1 million ou 10 millions de personnes dans la rue et qu'ils arrivent à un accord avec les frères, ils n'ont pas les moyens de demander aux gens de rentrer, de rentrer chez eux. Donc, pourquoi négocier avec ces messieurs ? Ça, c'est la phrase qu'ils posent. Alors, évidemment, si on a un interlocuteur un peu averti, il leur dirait, parce que vous avez intérêt à trouver quelqu'un les représentant quand même. C'est même pour vous, c'est mieux. Et donc, il dit, donc, discuter avec l'opposition, ça n'a aucun sens. En plus, notre base n'en veut pas. Notre base ne veut même pas travailler avec les partis islamistes, je dirais, modérés, genre Abou Lahel Amad. Comment voulez-vous qu'elle travaille avec ces gens ? Ce qu'on a à faire, et c'est plus pertinent, c'est de construire une coalition gérant le pays. Un peu autoritaire, certes, mais voilà. Alors, cette coalition serait composée des vieilles familles des grandes vieilles familles du PND, ou des financiers du PND dont on pense qu'on a besoin. Enfin, on n'a pas besoin de tout le monde. Ça, c'est un. Alors, il faut voir que dans certains gouvernorats de Haute-Égypte, c'est encore une société où les grandes familles décident qui est élu, et donc on a besoin d'eux électoralement à tel ou tel endroit. Et donc, ceux-là, on les coopte. Ils ont une tradition d'obéir au pouvoir en place. Et on essaye de se réconcilier avec certains hommes d'affaires proches du PND. On travaille avec les services. Alors, on travaille avec la sécurité d'État, avec l'appareil répressif, le ministère de l'Intérieur et les Moukhabarat. Le problème étant que beaucoup de monde, une grosse majorité de gens dans ces appareils, ne veulent pas entendre parler de ces messieurs, pour de bonnes raisons et pour de moins bonnes raisons. Et donc, on a une situation où c'est les services, plus tard, sont un peu dans le dilemme. Soit ils obéissent à un pouvoir dont ils ne partagent pas les conceptions, notamment en matière de sécurité nationale ou de citoyenneté, soit ils n'obéissent pas et ça donne aux autres un prétexte pour créer des institutions parallèles, faire de grandes purges. Et je ne sais pas comment ils négocient et qui fait quoi exactement, mais c'est un problème central qu'ils ont. Donc, il y avait cette idée-là de construire une grande coalition. Mais elle n'a pas marché. D'abord parce que les services sont très réticents. Ensuite, parce que leur base ne veut pas d'une vraie coalition. C'est le moment de monopoliser le pouvoir. Et troisièmement, parce que même les frères ont un problème dont il faudra un jour que j'en parle en long et en large, sur le rapport à la vérité, sur les promesses tenues. C'est une formation qui, historiquement, n'a jamais tenu aucune promesse qu'elle a faite. Il n'y a pas une fois où elle a tenu ses paroles. Donc, les hommes d'affaires ont très peur par exemple, de payer un quart de restituer un quart ou une moitié de leurs biens mal acquis, et puis de revenir se retrouver en prison pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont eu besoin d'un bouc émissaire. Donc, l'absence de confiance crée un problème important. Donc voilà en gros où on en est. Ce que les frères ont réussi à faire, je vais ajouter d'autres points, ce que les frères ont réussi à faire maintenant, c'est complètement se discréditer. Alors, au niveau, les sondages les plus favorables donnent 35% ou 37% de satisfaits, c'est très peu. Un sondage donne 82% des Égyptiens souhaitant le retour de l'institution militaire. De temps en temps, en plaisantant, je dis que c'est pour une démocratie censitaire avec seulement les chauffeurs de taxi et de camions votants. Je serais sûr qu'il n'y aurait aucun frère à l'Assemblée. Mais ils sont extrêmement impopulaires. Mais il faut voir que l'opposition laïque, ils ont réussi à entraîner avec eux dans la chute, en menant, parce qu'ils ont pris le contrôle des médias, chose que j'ai oublié de dire, et en menant une campagne de dénigrement systématique, soit dans les médias, soit du haut des prêches des mosquées, grosso modo les accusant d'être vendus à l'étranger, d'être anti-islam et de pratiquer l'échangisme. C'est le genre d'argument répétés, itérés, qui finissent par marcher de temps en temps. Et tout ceci, n'ayant pour seule stratégie, ce qui n'est pas entièrement faux, que empêcher les frères de gouverner. Mais quand vous avez ces deux-là, c'est-à-dire les frères sont en perte de vitesse conséquente et les partis d'opposition non islamistes sont en perte de vitesse conséquente, ceux qui profitent sont essentiellement l'armée et puis les salafistes. Mais avant d'entrer, de venir à l'armée, je veux dire qu'on sous-estime leurs ambitions régionales. C'est-à-dire ils passent leur temps à dire qu'ils vont rétablir le califat, que l'heure du califat est proche, et tout le monde dit ça c'est pour la consommation intérieure. Je ne suis pas extrêmement sûr que ce soit vrai. Je suis presque certain que non, ils y croient en partie. Alors il faut voir que le rapport au temps n'est pas le même que le nôtre, c'est-à-dire que si ce n'est pas dans 10 ans, ça peut être dans 50, ils n'ont aucun problème. Mais ils sont plus dans le trip, il faut prendre le temps plutôt que de faire des concessions irrémédiables. Mais c'est au programme et on le voit. Ça avance petit à petit et ils essayent de prendre le pouvoir dans le maximum de pays. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça j'ai parlé de ça. Bon, ils ont un autre grand plan. Ça, je dois un peu parler de leur programme économique. Alors il y a un problème massif. D'abord, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Ça, personne ne comprend. Alors je m'explique. C'est le pays va à la catastrophe, tous les indicateurs sont rouges et ils sont heureux. Alors, ils sont sereins, heureux, ils le voient. Alors, on est réduit à des conjectures. Personne ne sait. Alors, ça peut être quelque chose du genre, ils sont idiots, ils ne comprennent rien à l'économie. Mais apparemment, même des gens idiots comprendraient que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas ça. Non, on ne sait pas. On est tout à fait. Il y a un truc du genre, de toute façon, les États-Unis et Qatar ont mis trop d'argent dans cette affaire pour nous laisser tomber. Et donc, on peut mener la voiture au bord du gouffre et ils vont, tôt ou tard, nous empêcher de tomber. Et ils vont, que ça leur plaise ou pas, ils seront obligés de mettre de l'argent, même sans qu'on ait fait l'effort nécessaire. C'est une explication. Sauf qu'elle est risquée aussi. À un moment donné, les gens vont dire, tu veux aller au bord du gouffre, écoute, vas-y. Hein. Mais pour le moment, ça marche, apparemment. Une autre explication, on en est réduit à des trucs de parano, excusez-moi, je suis tout à fait conscient, mais s'ils sont tellement heureux, c'est peut-être qu'ils veulent un crash boursier pour prendre le contrôle maximum d'entreprise à bas prix. On ne sait pas, ils sont heureux. Sur le long terme, ils sont dans un grand dessein que j'aurais salué si ça ne venait pas d'eux, qui est ils veulent un partenariat avec la Turquie. La Malaisie, l'Indonésie, la Chine, les Tigres, quoi, et peut-être les BRICS, mais essentiellement un partenariat dont il serait la part occidentale. Quoi. La Turquie est à l'est, Qatar est à l'est, vous voyez. Et ils veulent, alors subrepticement, sans que les choses se voient, réduire les échanges avec les pays occidentaux. Les réduire significativement, voire plus. Ils ne veulent plus dépendre, il y a un problème de dépendance, ils ne veulent plus dépendre des pays occidentaux. Et alors, c'est sur des trucs, alors ils parlent d'intégration, ils veulent des économies intégrées, c'est-à-dire, en gros, moi, en étant méchant, alors je sais que c'est plus compliqué, mais des trucs fondés sur le troc, etc., etc., c'est-à-dire, on donne ceci à la Turquie qui nous donne cela, enfin, c'est la formule qui prévalait, il ne faut pas s'en moquer, entre l'Égypte et l'Union soviétique, alors ce serait une formule sur l'Égypte et les autres pays, il y a ça, et ils avancent. Leur politique étrangère est fondée, en gros, sur, donner aux États-Unis ce qu'ils veulent en matière Israël-Hamas, autant que faire se peut, et faire ce qu'on veut ailleurs. Je peux entrer dans le détail, je préfère pas, mais grosso modo, c'est ça. Leur principal ennemi, ce sont les pays du Golfe. L'Arabie saoudite est l'ennemi historique des frères depuis quelque temps. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite voudrait que cette expérience échoue. Alors, comment ils se sont vendus aux États-Unis, avant que je passe à autre chose? Et il faudrait que je parle de la machine électorale, j'oublie toujours, parce qu'il y a quand même une machine électorale. Comment ils se sont vendus aux États-Unis? Ils ont dit ce qui suit. Un, nous sommes la seule force organisée du pays, exact. Deux, nous avons un programme économique qui est libéral économiquement, exact et faux. Il faudrait que j'en parle après. C'est-à-dire, grosso modo, sur le programme économique, à part leur dernière sortie sur le virage regardez à l'Est et, avec qui on échange, mais leur programme économique, il y a deux versions des universitaires. Certains universitaires vous disent qu'ils sont très proches des petites et moyennes entreprises, qui sont le principal utilisateur du pays, le principal créateur d'emplois du pays. Et donc, s'ils réussissent à éviter les bêtises sur le secteur bancaire, ils pourront très bien faire beaucoup de bien à ce secteur des PME et donc du bien à l'économie du pays. Et vous avez d'autres qui vous disent, qu'ils soient proches ou pas des PME, le problème est que dans les instances de décision, il n'y a aucun d'eux qui est un économiste. Ce sont en général, bon, Geert Schot est un gros commerçant, mais pas tout à fait un industriel, mais les autres sont des profs d'université, des ingénieurs, des médecins, des trucs du genre, des gens qui n'ont jamais mis la main dans une n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise ou la main dans les rouages économiques. Donc ils ne comprennent rien à ça et c'est hopeless case. Sur ce qu'on entend, on est enclin à penser que le hopeless case est la bonne version. Mais d'abord, ils peuvent trouver des économistes travaillant pour eux. Ils peuvent apprendre. Il est trop tôt pour parler. Alors donc, ils ont dit aux États-Unis, excusez-moi, donc un, force politique organisée. Deux, programme économique libéral. Trois, nous avons les moyens, contrairement à Moubarak et contrairement à tous les autres, de tenir les Hamas et les djihadistes en laisse. Et effectivement, on a un petit signe intéressant. Tant que Tantawi et Annan, les deux généraux qui dirigeaient l'armée égyptienne, étaient au pouvoir, il y avait à peu près un attentat contre les pipelines de gaz tous les 15 jours. Depuis qu'ils sont partis, depuis que Morsi les a éjectés, il n'y a eu aucun attentat. Donc, ça vous donne un peu l'idée qu'effectivement, ils savent y faire. Après, voilà, il y a ça. Et trois, ils ont tenu un très gros discours. Bon, ils peuvent stabiliser la situation, pour le moment, ce n'est pas tout à fait ça. Mais ils ont réussi à convaincre les États-Unis qu'il y avait une idéologie frère qui pouvait être distinguée des idéologies salafistes. Et qu'eux pouvaient chasser sur les terrains salafistes et mater les salafistes pour la paix du monde. Et, enfin, en matière de sécurité, les frères étaient le meilleur allié des États-Unis sur les questions sécuritaires. Le problème est que le raisonnement ne tient pas une minute. D'abord, il n'y a pas une idéologie frère, distincte, sauf le code distinct du salafisme. Si un des deux chasse sur le territoire de l'autre, ce sont les salafistes qui chassent sur le territoire des frères. La confrérie est très salafisée. Prends un exemple bête. C'est une des beautés de cette confrérie, c'est qu'elle n'a pas d'oulémas compétents. Donc, ils n'ont pas les moyens de fournir une éducation religieuse à leurs militants. Quand ils veulent donner une éducation religieuse à leurs militants, ils passent par les salafistes. Ça a quelques impacts, quand même. Et donc, il y a ça. Et finalement, il y a le problème extrêmement simple, c'est qu'ils ont tendance à considérer les salafistes comme des idiots utiles. C'est-à-dire, c'est très bien, quand vous voulez dire que vous êtes modéré et que vous n'êtes pas modéré, en fait, quelle est la solution? Vous trouvez plus fou que vous. Et donc, les salafistes... Non, il y a régulièrement des fous en Égypte qui permettent aux frères de dire qu'eux sont centristes, alors qu'ils ne sont pas. Et il y a autre chose, mais restons là-dessus. C'est-à-dire que, grosso modo, là, on a vu la position du président Morsi sur le Mali, ce n'est pas exactement une position anti-salafiste. J'entrerai dans les détails, mais il y a un malentendu sur le fait qu'eux étaient le meilleur allié pour contrer le salafisme. Ajoutons à cela que si j'acceptais leur histoire, c'est-à-dire qu'eux sont rigoureusement distincts du salafiste, etc., 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 ce qui est tout à fait faux. Après, comme ce sont des informations qui m'ont été données par des collègues, je vous demande de me croire sur parole, je ne veux pas entrer dans les détails, mais en admettant donc que l'histoire soit tout à fait exacte. Mais à l'heure actuelle, ceux qui sont en train de se brûler au pouvoir, c'est-à-dire qui sont en train de se discréditer, ce sont eux, ce ne sont pas les salafistes. Donc un islamiste qui aurait envie de contester le pouvoir en place, c'est plutôt l'alternative frère, le terme d'alternative frère qui n'est pas séduisant, et ce n'est pas le terme d'alternative salafiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en admettant que cette histoire qui est un truc rigoureusement distinct, qui serait frère et que les salafistes, c'est vraiment quelque chose de profondément maléfique, je ne le crois pas, en fait, et qui sera tout à fait autre, celui qui se discrédite, alors que ce n'est pas le salafiste, c'est les frères. Donc toute cette histoire ne marche pas. Je suis complètement dépassé par la crédulité de ceux qui la répètent. Quoi. Bon. Je crois que quelque chose me vient à l'esprit et que j'ai oublié. On laisse ça tranquille, ça reviendra probablement à un moment. Et je vais passer à l'armée. Ah, un truc aussi important sur comment ils sont vendus, j'ai de la peine à lire mon écriture, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à beaucoup de monde que leur devenir historique, c'était l'AKP. Or, ce n'est pas l'AKP. Ils ne sont pas l'AKP, c'est autre chose. Alors, je ne vous dis pas, s'ils deviennent un jour l'AKP, ce ne sera pas exactement parce qu'ils l'auront voulu. Ils ne le veulent pas. Eux, ils sont ceux qui font, c'est ils sont en train d'étudier très près l'expérience de Hassan Tourabi. C'est ça leur guide. Alors, je ne dis pas qu'ils pensent que Hassan Tourabi était parfait, mais c'est l'expérience dont il est important de savoir pourquoi elle a échoué, c'est celle de Hassan Tourabi. Ce n'est pas l'AKP. L'AKP, pour eux, c'est pas ça. Alors, ils ont besoin de la Turquie, ils veulent un partenariat avec la Turquie, mais vous pouvez vouloir un partenariat avec la Turquie sans vouloir ressembler au parti qui gouverne la Turquie. Ça, c'est aussi un autre point où il y a eu un miracle de la communication. Alors, peut-être qu'un jour, ils deviendront, il faut bien voir, peut-être que dans 20 ans, ils seront devenus une sorte d'AKP très démocratique, etc., etc. Mais ce n'est pas exactement leur intention maintenant, que ce soit clair. Bon, on passe à l'armée. Alors, l'armée, en Égypte, c'est... Il y a un grand récit qui veut que l'État moderne égyptien, c'est la création d'une alliance de militaires et d'intellectuels. Militaires, c'est Mohamed Ali ou Nasser, et intellectuels, ce sont les intellectuels, les Lumières. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais il faut avoir à l'esprit que ce mythe est très tenace. Que l'armée est le créateur, le garant, le protecteur de l'État-nation moderne égyptien. L'armée, j'en ai parlé un peu, je le reviens dessus, et était extrêmement fâché de Moubarak pour toutes sortes de raisons. Et quand il y a eu une révolution populaire, parce qu'il y a eu une révolution, on est encore en plein processus révolutionnaire, même s'il s'essouffle, a sauté sur l'occasion pour se débarrasser des Moubarak et a essayé de concevoir une transition démocratique pour calmer la révolution. Mais au sein de l'armée, il y avait des accords, accords et désaccords. Tout le monde est d'accord pour qu'une démocratie, que la seule manière de sauver l'appareil d'État, ses modes de faire autoritaires, sa prééminence sur la société, etc., etc., c'était pas de le former, mais c'était d'organiser des élections libres pour que le patron de l'exécutif soit légitime. Ça, il y avait accord là-dessus. Il y avait également accord sur la menace dangereuse pour les intérêts de l'armée en Égypte, c'était une jonction frères musulmans, jeunes révolutionnaires non islamistes. Et ça, c'est une constante. Il fallait à tout prix empêcher une jonction entre ces deux forces. Et c'est pour ça, et j'ai des preuves au sens documentaire, qu'une erreur massive de la presse commise ici, a été de croire que le général Chafi était le candidat de l'armée. Le général Chafi était une emmerde royale pour l'armée. Parce que lui était capable précisément, en sens inverse, d'abord il pouvait tout à fait les faire partir, il pourrait faire ce que Morsi a fait, les mettre à la porte, mais c'est surtout, c'était avoir la jonction islamiste, frère et salafiste, plus, frère surtout, plus jeunes révolutionnaires contre eux. Alors pour que je sois très précis, je suis en train de parler des calculs du commandement de l'armée et ce commandement de l'armée était à la tête d'une coalition bureaucratique où il y avait des organismes de sécurité qui ne fonctionnaient pas de la même manière, le ministère de l'Intérieur qui avait d'autres intérêts. Je ne vous dis pas que dans la coalition pro-Conseil supérieur des forces armées, Chafi n'avait que des ennemis. Mais au sommet de l'armée, il n'avait que des ennemis. que les choses soient assez claires sur cette affaire. Donc, il y avait donc accord sur ces deux points, mais après, il y avait des accords sur ce qui suit. C'est, il y avait ceux qui pensaient, tout le monde, que, un, les frères ne pouvaient pas gagner les élections, donc il n'y avait pas à s'occuper, se faire de soucis, ou ceux qui pensaient que, par contre, les frères allaient gagner les élections et que ce serait une catastrophe pour la démocratie. Et qu'il fallait donc que l'armée aide les autres forces. Il y avait une ligne de conduite comme ça, c'est celle qui a perdu. Et vous aviez une autre ligne de conduite qui était, bon, les frères vont gagner les élections, mais une cohabitation avec eux est possible. Et de toute façon, ce n'est pas à l'armée, si le peuple égyptien a envie des frères musulmans, qui se les tape. Ce n'est pas à l'armée à s'occuper de faire le travail des partis d'opposition. Et donc, il vaut mieux arriver à un accord avec les frères, ou un partage, une cohabitation avec les frères, et que l'opposition fasse son boulot, ce n'est pas le nôtre. Au début, il faut voir qu'au début, parce qu'on l'oublie, ils ont proposé de l'argent aux jeunes révolutionnaires pour qu'ils créent leur parti. Les jeunes révolutionnaires ne voulaient pas être, avaient peur, à juste titre, d'être cet Élysée, donc on dit non. Mais le souci de l'armée était effectivement, d'une partie de l'armée, était de neutraliser la bombe frère qui allait venir. La faction, alors il faut voir un peu comment fonctionne l'armée. Alors je vais dire deux choses différentes, ou trois choses différentes. Un, c'est une armée qui, le contrat avec un type, un cadet de l'académie militaire suivant. Pendant 20 ans, vous mangez de la merde. Vous avez des salaires qui ne sont pas bons. Dès que vous devenez brigadier, c'est jusqu'à colonel, vous souffrez. Dès que vous devenez brigadier ou que vous partez à la retraite, c'est-à-dire que mes retraites veut dire dans ce cas souvent pantoufler, vous raflez le jackpot. Mais l'armée, de sous-lieutenant à colonel, ce sont des petits bourgeois provinciaux, souvent, pas forcément, mais ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat très limité et qui rament. Et il y a à en tenir compte parce qu'ils sont capables de mettre en mouvement des unités. Ça, c'est un premier truc. Un autre truc, c'est quand la police égyptienne est défaillante, là, elle s'est effondrée pendant la révolution, l'armée ne peut pas maintenir l'ordre seule, doit faire appel aux réservistes. Autant, elle peut faire confiance au corps des officiers en matière d'infiltration par les islamistes. Après, il faudra que j'en parle plus longuement, mais autant les réservistes, c'est moins sûr. Dans les réservistes, il y a des frères. Donc, elle n'a pas intérêt à avoir une situation où elle est tout le temps sur le terrain en Égypte. Donc, il y avait, dans les gens qui voulaient un accord avec les frères, il y avait ceux qui pensaient qu'il était temps de déblayer, de rentrer dans les casernes ou d'aller à la frontière ou d'améliorer le degré de préparation, que les 2 ans où elle avait géré la transition politique avaient été catastrophiques pour son image et avaient été catastrophiques pour son degré de préparation et pour l'état des troupes. Il y a ça à avoir en tête. Et ces gens, donc, sont arrivés à un accord avec les frères. Le général El-Assar et le général Sisi sont arrivés à un accord avec les frères. Et je pense que Tantawi était en partie dans l'accord. C'est-à-dire que Tantawi aussi, lui, était plutôt sur cette ligne et qu'il a convaincu les frères de prendre Sisi. Après, il a été roulé sur une chose, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, où on en est? Le problème est que les frères, pour des raisons de culture, de clandestinité, de paranoïa structurelle, etc., de méfiance radicale, puisque leur lecture est que eux sont l'islam, tous les autres sont des gens qui veulent empêcher l'islam de s'accomplir, se sont tirés une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que Sisi, qui est le nouveau patron de l'armée, est plus jeune, et surtout, ils ne peuvent pas utiliser contre lui les armes qu'ils utilisent contre les autres opposants. C'est-à-dire, ils peuvent très bien dire de Baradei que c'est un laïc, qu'il boit de l'alcool, qu'il est contre l'islam, qu'il n'est pas vraiment musulman, etc., etc. Et Sisi, patron de l'armée, sa femme est voilée, il a une fille monocobre, il fait ses 5 prières par jour, il est culturellement un islamiste, son oncle était, alors ce serait intéressant d'en parler après, mais son oncle était membre du bureau de guidance des frères musulmans. Donc ce n'est pas exactement un type dont il est possible de prouver qu'il n'est pas un musulman. Il n'y a rien à faire à ce niveau contre lui. Il faut trouver d'autres arguments. OK. Alors, ce qui s'était passé, au début, ça a bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont donné à l'armée, les frères ont donné à l'armée une place énorme dans la Constitution. On fait ce qui suit. Puis, à un moment donné, ils ont paniqué. Alors, est-ce qu'ils ont paniqué? On ne sait pas exactement pourquoi, sur des questions relatives à l'argent. C'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les frères ont demandé à puiser dans le budget de guerre de l'armée, ou le trésor de guerre de l'armée, dans les fonds secrets. Est-ce que ça s'est passé parce que les frères ont fuité à un moment donné qu'ils allaient faire traduire tantôt Yarenen en justice et là l'armée s'est fâchée? Toujours est-il qu'on a des signes. Par exemple, à un moment donné, un site web proche des frères a publié une info comme quoi les frères allaient bientôt licencier Sisi, le général. Bon, un site proche de l'armée explique que les licenciements, ça ne marche pas dans ce sens mais dans l'autre. Que si quelqu'un licencie l'autre, ce sera... Voilà, il y a ceci. Après, je n'ai rien dit. C'est les deux disent, je n'ai rien dit. Mais on a d'autres signes. Par exemple, Morsi est allé au Soudan et, dit-on, a fait des promesses sur Halaib, qui est une zone contestée. Deux jours après... mettons une semaine après, j'ai pas les dates en tête, le chef d'état-major de l'armée va au Soudan et leur dit, oubliez ce qu'il vous a raconté. Alors vous pouvez oublier, on développe la coopération militaire. Mais de toute façon, vous oubliez ce qu'il a raconté. On a des signes comme ça. Le 25 avril, et Sisi, dans son allocution improvisée, dit qu'il veut dire bonjour aux artistes, aux journalistes et... à ceux de la famille égyptienne qui sont chrétiens. Exactement, bon, à part les juges, je ne sais pas s'il a donné les juges ou pas, mais les gens qui ont des problèmes avec l'armée, avec les frères. Partage des rôles, tension, ça ressemble plutôt à des tensions. Alors, j'ai dit quelque part, 82% des Égyptiens, selon les sondages, souhaitent le retour de l'armée, qui effectivement, à chaque fois que... C'est-à-dire le savoir-faire de Morsi et le savoir-faire de Sisi sont très comparés, par les gens, et effectivement, il y en a un qui s'en sort beaucoup mieux que l'autre, disons ça comme ça. Mais on ne voit pas une chose, c'est que l'armée ne peut pas tout à fait intervenir. Un, le pays n'est pas gouvernable. Alors je pourrais décrire, on est dans une situation de processus révolutionnaire. Elle a gardé un très mauvais souvenir de son image de marque, de ce qui s'est passé à son image de marque pendant son passage à la tête du pays. La jonction jeune révolutionnaire frère est très possible. Alors certes, les jeunes révolutionnaires, à l'heure actuelle, sont très, 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 très fâchés des frères, mais ça peut changer très vite. Vous avez le problème américain. Le problème américain est, qu'est-ce qui se passe si les États-Unis adoptent des sanctions contre l'armée égyptienne? L'armée égyptienne, elle, dépend des États-Unis, peut-être pas le reste du pays, mais l'armée égyptienne dépend des États-Unis pour l'argent, dépend des États-Unis pour le matériel d'armement, dépend des États-Unis pour la formation et pour les échanges de technologies et de savoir-faire. Donc elle a à tenir compte de ça. Et pour tout ceci, en gros, ce que l'armée dit à la population, c'est quand vous voulez changer quelque chose, vous avez réussi à changer. En clair, c'est... Nous n'avons pas défendu Moubarak, fils de l'institution, quand le peuple s'est soulevé contre lui. Morsi ne vous plaît pas, soulevez-vous contre lui, on ne le défendra pas. Et nous n'allons pas bouger. Après, à des moments... je peux vous faire perdre un peu beaucoup de temps sur des choses. À des moments, vous avez des gens proches de l'armée qui vous expliquent que les militaires sont convaincus et disent partout qu'entre eux et Morsi, c'est une lutte à mort. Puis il y a d'autres moments que tout se passe très bien. Vu ce que je crois savoir de la méfiance frère, il est très clair que pour le moment, Sisi est leur principal problème. Parce que c'est un homme populaire qui a fait un sans-faute jusqu'à maintenant, etc., etc. Mais peut-être qu'ils vont apprendre à cohabiter. Peut-être qu'ils réussiront à l'éjecter. Et j'ai oublié de dire, et puis là je vais passer à autre chose, que... en interne, au sein des forces armées, selon tous les témoignages qu'on a, il y a une très forte pression pour que l'armée montre plus souvent les griffes à Morsi, parce qu'ils en ont marre des petits coups de griffes à droite et à gauche. Par exemple, j'en ai oublié un, mais le Guardian a publié un papier sur l'attitude de l'armée pendant les 18 jours qui ont fait tomber Moubarak et montrant que l'armée, ou disant que l'armée, montrant que l'armée, je pense, avait plus pris part à la répression qu'elle ne le dit. Et qu'il y avait eu des cas de torture, des gens disparus. Alors, je ne veux pas trop parler des 18 jours, le témoignage est à la fois exact, et me semble, et partiel, mais l'important est de savoir qu'il vient de la présidence. Et ça, tout le monde le sait, en Égypte. Que la fuite sur les tortures pratiquées par l'armée vient de la présidence. Donc, à ce niveau, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les conditions pour le succès politique d'un coup d'État ne sont pas remplies, que l'armée le sait, mais que l'armée n'a pas envie d'intervenir, qu'elle risque d'y être contrainte si ça continue comme ça, mais elle n'en a pas envie. Et si, à l'heure actuelle, on est parti pour une alliance armée salafiste avec peut-être les Nassériens à bord. C'est dans le cadre du scénario coup d'État. Ce qui nous mène aux salafistes. Alors, salafistes, vous savez, il y a un maxime arabe qui dit « La youfta ou malik fil madina ». Vous avez quelqu'un qui les connaît beaucoup mieux que moi à Paris, donc je vais en parler rapidement. C'est Stéphane Lacroix. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur son terrain. Mais il faut voir que c'est un mouvement très pluriel. Alors, les salafistes, d'abord, vous avez les salafistes quiétistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire de politique. Vous avez les salafistes djihadistes qui sont... qu'on retrouve essentiellement pour le moment dans le Sinaï. Ce sont des gens qui se réclament peu ou prou avec des variantes de l'idéologie de Ben Laden ou au contraire de l'idéologie qu'on dit de takfiriste, de takfir ou hegre. Cela existe. Je préfère aussi ne pas trop en parler, mais ils existent. Vous avez en fait des salafistes, ça c'est la nouveauté, des salafistes politiques. Alors des salafistes politiques... Ce sont des salafistes qui ont décidé de s'inspirer plus ou moins des frères musulmans et de se lancer dans l'action politique. Il y a plusieurs partis. Le principal, c'est le parti El Nour. Il est le principal parce qu'il a relativement beaucoup de troupes, parce qu'il est cautionné par deux ou trois des plus grands prédicateurs de la salafia et parce qu'il joue magnifiquement bien. Alors, je veux être très clair, ça va me mener à un truc... Ne vous attendez pas à des vues progressistes sur les femmes ou sur les non-musulmans de la part d'un salafiste. C'est beaucoup plus réactionnaire que les frères. Voilà, je sais que ce que j'avais oublié. En fait, il y a la différence qu'il y a entre les frères et les salafistes, la vraie, c'est sur la question du gradualisme. Les frères ont toujours été pour une approche graduelle dans l'islamisation de la société. Et les salafistes sont pour une application immédiate de la charia. Sauf que je pense que les différences se sont atténuées, d'une part parce que les frères ont brusquement sont très pressés, pas forcément d'appliquer la charia, mais de prendre le contrôle, parce que leur cote de popularité étant en baisse, pour le moment, ils sont plutôt dans créer le maximum de faits accomplis, irréversibles, plutôt que d'être consensuels. Ça va peut-être changer, mais il y a ceci que les frères ont accéléré la cadence. Et tandis que les salafistes qui sentent venir une chance de prendre le pouvoir, eux, se modèrent un peu. Mais la grosse différence, s'il y a une différence entre l'idéologie frère et l'idéologie salafiste, c'est sur le rapport au temps. Les uns sont moins pressés que les autres. Sur le reste, ils racontent n'importe quoi. Et il y a ça. Mais alors le salafiste des Nour se vend à l'heure actuelle ou met en évidence ses qualités. Un, on ne va pas vous raconter de bobards. On vous dit que pour nous, les intérêts, c'est haram, c'est péché. Nous n'allons pas changer d'avis du jour au lendemain. Vous savez qu'est-ce que nous pensons. Nous sommes peut-être doctrinairement plus stricts, mais au moins, nous respectons notre parole. Et là, il faut voir que, grosso modo, tous les partenaires politiques vous confirmeront. Un frère, par définition, il ment tout le temps. Et un salafiste, il peut vous dire des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous savez qu'il les pense, ou qu'il essaye de respecter ses accords. Alors, sur le rapport au mensonge, je veux revenir sur les frères un peu, pardon, ça part dans tous les sens, mais il faut voir que d'abord, ceux qu'on voit le plus souvent au niveau de la confrérie sont des gens qui ne comptent pas. Les patrons, on les voit très peu. C'est un peu comme si l'UMP envoyait un assistant parlementaire, j'exagère un peu, pour décliner la position du parti, qu'on ne voyait jamais le patron du parti. Il y a ceci. Il y a le fait que les phrases, même quand n'ont pas de sens, les phrases frères racontées, c'est-à-dire, vous comprenez... en général, vous ne comprenez pas la première moitié de la phrase, vous ne comprenez pas la seconde moitié de la phrase, vous ne comprenez pas le lien entre les deux. Et quand par hasard, vous comprenez la phrase, parce qu'elle a un sens, elle est contradictoire avec la phrase d'après ou d'avant,
Et en plus, il y a 30 000 bruits. Enfin, il est impossible de savoir ce que les frères pensent. Et ils n'ont, en plus, historiquement, jamais respecté un accord. Alors, vous pouvez me prendre pour un laïc non-musulman, méchant, et tout ce que vous voulez, mais allez parler aux Saoudiens des frères musulmans. Au moins, on ne les accusera pas d'être laïcs, eux. Et vous entendrez ce qu'ils disent. Donc, il y a ce problème. Alors, les salafistes jouent sur ce besoin de vérité. Parce que, et je vais être très clair, pardon sur les frères. Quand vous avez la principale force du pays, politique du pays qui utilise des milices pour attaquer les manifestants, qui ment tout le temps, qui ne respecte jamais aucun accord, les autres font la même chose. Historiquement, le problème vient des frères. Chronologiquement, je peux le prouver. Mais il ne faut pas penser que maintenant les laïcs, eux, n'ont pas de milices, ou que les laïcs ne mentent pas, ou que les laïcs, s'il y a un accord avec les frères, vont le respecter. Il y a un effet corrupteur pour l'espace public des pratiques frères. Et tout le monde est comme ça. Sauf les salafistes qui réussissent. Alors, ils doivent l'être un peu, bien sûr, mais les salafistes réussissent à dire qu'eux ne sont pas comme ça. Puis, ils disent, nous, nous ne sommes pas prêts à gouverner le pays, nous n'avons pas le savoir-faire nécessaire, mais nous le savons. Nous n'allons pas, nous allons partager les postes. Et trois, ils essayent de voir, d'écouter ce que les laïcs racontent et de voir quelles concessions ils peuvent faire. Et en gros, par exemple, sur la justice, ils font des concessions. J'ai oublié de dire que parce qu'il n'est pas encore passé, que les frères ont un projet de mettre 3500 juges à la porte sur 10 000. Ça, c'est un autre. Il y a de grosses tensions sur l'affaire de droit. Donc, les salafistes, maintenant, essayent aussi. Je crois qu'il y a un groupe salafiste, enfin, une délégation salafiste qui circule en Europe, essaie d'aller aux États-Unis. Les salafistes essayent de se présenter comme un partenaire acceptable aux opinions occidentales, qui auraient le mérite d'être plus, d'abord islamiquement plus légitime, paradoxalement, en même temps de faire une plus grande place aux autres interlocuteurs, et troisièmement, d'avoir une meilleure relation avec l'armée. Effectivement, leurs relations avec l'armée sont assez bonnes. Après, il ne faut pas se raconter des histoires. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne vois pas comment ils peuvent faire marche arrière. Bon. Il me reste à parler rapidement des partis non islamistes. Alors, je ne les connais pas, donc je vais aller très vite. Et grosso modo, c'est le désastre absolu. C'est le désastre absolu pour diverses choses. D'abord, il y a trop de chefs. J'ai tendance à dire que tous ceux qui optent pour la servitude volontaire vont chez les frères et que tous ceux qui ont envie de devenir chefs vont ailleurs. Sauf qu'il y a un peu trop de chefs ailleurs. Il y a des problèmes structurels, du genre un problème de financement. Au début, les hommes d'affaires libéraux les ont beaucoup aidés, mais maintenant, ils ont un peu coupé le robinet. Alors, ont-ils coupé le robinet sous pression frère, comme se plaignent en privé ces chefs de l'opposition non islamiste, ou ont-ils coupé le robinet parce qu'ils ont vu que le spectacle était désolant, je n'en sais rien, mais il y a un problème d'argent. Et puis, un problème de classe assez primate ou primaire. Ils représentent à la fois les familles provinciales dont les frères ne veulent pas, les grandes familles provinciales dont les frères ne veulent pas, et la jeunesse révolutionnaire. Et les deux, ça ne marche pas ensemble, ce n'est pas exactement le même agenda. Et puis, sans parler alors des problèmes de personnes. Pour moi, le plus intéressant est Sabahi, le nassérien, parce que je crois que c'est le seul qui a une chance de transcender la polarisation laïque, enfin, ou plutôt non-islamiste, islamiste. Il a quelques problèmes. D'abord, il n'a pas d'organisation et il a un problème de crédibilité, même s'il travaille dessus. Alors, le problème de crédibilité peut être décliné de deux manières différentes. Par ses ennemis, ils diront que c'est un tribun, même pas pour étudiants d'université, mais pour lycéens. Alors, la réponse étant, mais les lycéens et les étudiants sont quand même le fer de lance de la contestation dans ce pays, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et d'autres qui ont plus de sympathie pour l'homme vous diront qu'il joue un jeu très compliqué puisqu'il doit à la fois, sans organisation, rassurer l'armée, les classes moyennes bureaucratiques, la jeunesse révolutionnaire et l'électorat pauvre qui a voté salafiste aux législatives. Et que parler à ses couches exige un savoir-faire qu'il est en train d'acquérir, je parle de ceux qui le défendent, mais ça demeure quand même peut-être une quadrature du cercle. Baradaï a certainement beaucoup plus de savoir-faire, ou dans son équipe, il y a beaucoup plus de gens qui ont un savoir-faire pour diriger un appareil d'État, sauf que pour gagner une élection, c'est autre chose. et sans parler des probables caca nerveux du genre « je m'en vais, je démissionne », etc. La jeunesse révolutionnaire, on ne la voit pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait, on croit savoir qu'il y a une élite radicale qui est en train de se constituer dans le pays et qu'il y a un renouvellement du personnel révolutionnaire qui est en cours. On sait que la jeunesse a pris goût à la révolution, c'est-à-dire, j'ai pu voir, c'est-à-dire, il y a tous les jours, enfin tous les jours non, parce qu'il y a, mais quand il y avait des manifestations, on voyait tout le temps de nouveaux venus. C'est, il faut voir qu'il y a des gens de 16, 18 ans, entre 16 et 20 ans, qui n'ont pas pris part à la révolution de 2011 et qui veulent leur révolution. Il y a le fait aussi que vous avez objectivement des couches qui sont perdantes dans ce pays. Grosso modo, vous avez 4 millions de diplômés universitaires qui n'ont pas d'emploi. Ça, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils descendront dans la rue. Vous avez les vendeurs ambulants. Il suffit d'aller à la rue Talat-Harb, si vous allez en Égypte, voir. Ça aussi, ce sont des gens qui peuvent rejoindre les rangs révolutionnaires à n'importe quel moment. Vous avez les mouvements ouvriers qui essayent de se mettre en place. Vous avez la jeunesse révolutionnaire et vous avez les enfants des rues. C'est-à-dire, il y a de la chair à canon pour une révolution dans ce pays. Alors, l'opinion publique, moi, j'aime bien ce que mon collègue Saïd Arkash a dit. Je lui dois beaucoup de choses. J'ai oublié de le dire merci. Et il dit, grosso modo, l'opinion publique veut à la fois la dignité et la stabilité. Quand elle veut la dignité, quand elle veut la stabilité, elle en a marre des jeunes révolutionnaires et elle est avec le pouvoir en place, quel qu'il soit. Quand elle veut la dignité, elle est avec les jeunes révolutionnaires. On ne sait pas quand elle choisit quoi. À l'heure actuelle, on a quand même l'impression qu'il y a à la fois une très grande fatigue et une très grande exaspération vis-à-vis des frères, qui peut se résumer sur un truc très profond, et pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La population égyptienne, il y a énormément de gens très croyants, et le programme frère résume, grosso modo, si on avait à le caricaturer ou à le résumer, c'est contraindre les gens à adorer leur Dieu. Alors, en premier temps, les gens pensent que contraindre les gens à adorer leur Dieu, c'est, on parle de l'élite, des 10 000 emmerdeurs qui dirigent le pays, puis on se rend compte qu'ils parlent de beaucoup plus que ça. Et il y a un problème massif entre les musulmans croyants conservateurs et les frères. Nous savons ce que... Moi, le nombre de gens qui me disent, ils nous disent « Qal Allah wa qal al-Rasoul », Dieu a dit, le prophète a dit, et puis ils viennent inventer des mensonges. Nous savons ce que Dieu a dit, nous savons ce que le prophète a dit, nous le vivons tous les jours. On n'a pas besoin d'eux. Alors, il y a ce côté. Alors, certains vieux communistes, j'ai des noms à l'esprit, se disent « Ah, je vais pouvoir mourir tranquille, la laïcité va triompher en Égypte. » Les frères ont tellement fait pour que cette idée soit séduisante. Dieu merci, ils ont réussi là où nous avons échoué. Faire de la laïcité ou de l'état civil, Dawla al-Madaniya, un truc séduisant. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. La grosse question maintenant, à part le fait de, est-ce que l'économie, est-ce qu'ils vont réussir, ils vont se décider à entreprendre les réformes économiques, c'est s'il y a des élections libres, et ça je devrais dire un mot, vous pardonnerez le côté fouillis de la chose, s'il y a des élections libres, est-ce que le discrédit des frères est un discrédit islamiste ou est-ce que c'est un discrédit seulement frère? C'est-à-dire, est-ce que les salafistes vont prendre les voix que les frères vont perdre, si les frères les perdent, ou est-ce qu'on aura un Parlement totalement éclaté? On n'en sait rien. Alors, sur la machine électorale frère, et puis j'arrête tout à fait, parce que j'avais oublié d'en parler, les frères, c'est 5,5 millions, 6 millions d'électeurs au minimum. Ça, on le sait. Qui sont extrêmement efficaces pour se mobiliser et qui sont extrêmement efficaces pour tricher. Alors, ce que j'appelle tricher, je vous donne le pattern bête qui a été vérifié sous Moubarak, qui a été vérifié lors du dernier référendum, qui a été vérifié tout le temps. Ils se lèvent à l'aube, font la prière de la guerre et vont devant les bureaux de poste, de vote. Et ils bloquent. Ils savent exactement, parce qu'ils ont qui vote comment et tout, et ils ont les bases de données qu'il faut et les choses, et ils bloquent. Et ils savent exactement comment se mettre en route de telle sorte qu'eux seuls puissent voter et pas les autres. Ça, c'est extrêmement efficace. Alors, sans parler du fait que maintenant, il y a des choses extrêmement bêtes. Vous savez que telle circonscription ne vote pas pour vous, vous vous débrouillez pour que le juge ou pour que les fonctionnaires n'arrivent pas ou qu'ils n'ouvrent que 2 heures, etc. Il y a un million de manières. Il n'y a jamais eu une élection régulière en Égypte, même quand les princes l'ont voulu, c'est-à-dire quand l'armée, en l'occurrence, voulait des élections à la régulière. Ça n'a jamais eu lieu en Égypte. Des frères ont fraudé beaucoup. Ils ne sont pas les seuls. Tout le monde fraude. Hein. Vous ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Les frères ont fraudé quand l'armée était là. Je ne vois pas pourquoi ils ne frauderaient pas aujourd'hui. Mais dans le cas improbable, à l'heure actuelle, d'un coup d'État militaire pour organiser des élections législatives très vite, un autre problème, c'est s'il n'y a pas d'intervention, les frères risquent d'avoir la majorité, non pas parce qu'ils sont populaires, mais tout simplement parce qu'ils ont acquis l'art de voter et d'empêcher les autres de voter. Une présidentielle, par contre, c'est plus compliqué, ils la perdent. Aujourd'hui, ils la perdent.
J'arrête là. Oui. Merci.
Pardon, c'était assez couillé.